France Musique. Musicopolis. Strozzi. 1659. Venise. L'enfance de Barbara Strozzi, baptisée le 6 août 1619, se déroule dans la maison de Giulio Strozzi, un poète très en vue à Venise. La première mention que l'on a d'elle, en dehors de son baptême, se trouve dans le premier testament rédigé par Giulio en 1628. Il y désigne comme sa légataire Isabella Garzoni, sa servante de longue date, en précisant que si celle-ci est morte, c'est Barbara qui devient son héritière. Elle a alors 9 ans. En 1650, dans un nouveau testament, Barbara est devenue son unique héritière et il la désigne comme sa fille élective. D'après les musicologues, on peut interpréter ce terme comme « fille adoptive », ce qui serait un euphémisme pour « illégitime ». Barbara Strozzi, la fille adoptive et peut-être naturelle de Giulio Strozzi, vit chez lui à Venise avec sa mère. Giulio est lui-même un enfant illégitime, fils de Roberto Strozzi, banquier vénitien. Giulio a fait ses études à Venise, puis à l'université de Pise, où il a obtenu un diplôme en droit. On le retrouve à Rome, où il participe à la fondation de l'Académie des Ordinati, un cercle littéraire. Il prend part à quelques polémiques avant de partir pour Padoue, puis à Urbino, au service du duc. Il revient ensuite définitivement à Venise. Là, il se joint à des cercles littéraires et musicaux. Il est notamment l'un des membres d'une autre académie, celle des Incogniti, des Inconnus. L'Académie des Incogniti, fondée en 1630 à Venise, réunit des intellectuels libres penseurs, principalement des nobles. Ils sont historiens, poètes et aussi librettistes d'opéra. Ils prônent une philosophie aristotélicienne. Le nom de l'Académie, des Inconnus, correspond à la pratique de ses membres, qui agissent plutôt en coulisses que sur le devant de la scène. Ils écrivent souvent dans un langage secret et ils publient fréquemment de façon anonyme. Ils ont été très actifs dans la promotion du théâtre musical, qui en est encore à ses débuts. Et ils fondent même leur propre théâtre au début des années 40. Leurs livrets sont jugés immoraux. À côté de Giulio Strozzi, on trouve parmi les librettistes de l'Académie Giacomo Badoaro, qui a écrit le texte du Retour d'Ulysse dans sa patrie de Monteverdi, et Giovanni Francesco Businello, qui a quant à lui fourni le livret du couronnement de Poppée et de plusieurs opéras de Francesco Cavalli. Giulio Strozzi fréquente la crème des intellectuels de Venise et aussi de nombreux musiciens. Il collabore avec Monteverdi en 1627 et en 1630 pour deux opéras, tous les deux perdus, La Finta Pazza Licori et Proserpina Rapita. Dans sa correspondance, Monteverdi décrit le travail de Strozzi dont il est enchanté. Strozzi écrit extrêmement facilement et avec la Finta Pazza Licori, il réussit sans souci à transformer une petite pochade de 400 lignes en une comédie en 5 actes. En 1630, la jeune Barbara, sa fille adoptive, a 11 ans et elle rencontre sans doute Monteverdi, du moins entend-elle parler de lui. Elle a sans doute déjà une jolie voix, puisque bientôt, son père va organiser des concerts privés pour la faire entendre. En 1634, alors que Barbara Strozzi a juste 15 ans, elle enchante déjà ses auditeurs. Niccolò Fontei, un musicien qui fréquente la maison des Strozzi, loue la manière hardie et charmante dont cette modeste sirène rend habituellement les harmonies. L'année suivante, il lui dédie ses Bizarrie Poetiche, un volume de chansons. Thank you. Niccolò Fontéi, l'un des musiciens habitués des petits concerts privés chez Giulio Strozzi, a dédié deux volumes d'air à Barbara Strozzi. Et il parle dans la dédicace de 1635 de la signora Barbara, gentilissima e virtuosissima donzella, demoiselle extrêmement gentille et extrêmement virtuose. Barbara a alors tout juste 16 ans. Son père Giulio a certainement encouragé Niccolò Fontéi pour ses compositions, puisque la plupart des textes sont de lui. Certains sont écrits sous forme de dialogue, comme celui-ci entre la bergère Phyllis et le berger Tircis. Si on sait qu'à l'âge de 15 ans, elle chante déjà de façon hardie et charmante, en revanche, on ne sait pas exactement à quel moment Barbara Strozzi a commencé ses études de composition. En tout cas, elle déclare dans la préface de son opus 2 que Francesco Cavalli a été son professeur dans son enfance. Il est probable que son père Giulio surveille attentivement ses études et qu'il les favorise. Il prend sans doute en compte le fait que n'étant pas riche, il ne pourra pas la doter de manière avantageuse pour qu'elle puisse faire un bon mariage. Peut-être ne veut-il pas non plus l'enfermer dans un couvent. Il faut donc qu'elle puisse subvenir à ses propres besoins. Ce qu'elle fera d'ailleurs toute sa vie, nous le verrons plus tard. Pour le moment, en 1637, elle a 18 ans. Giulio décide de fonder une nouvelle académie, celle des Unisoni, un jeu de mots entre ceux qui partagent les mêmes idées et le terme musical d'unisson. Nous savons un peu ce qui se passait au cours des réunions de l'Académie des Unisoni grâce à une publication de 1638 dédiée à Barbara Strozzi, publication qui cite tous les membres de l'Académie et qui décrit quelques-unes de leurs soirées. Celle-ci consistait en discours des académiciens et en exercices de rhétorique sur des sujets offerts au débat. Par exemple, la première session concernait la calomnie et la question de savoir si elle stimulait ou bien inhibait la vertu. D'autres sessions tournaient autour de l'amour. Quelle chance une fleur particulière apportera-t-elle à l'amour? Ou alors, si l'amour cause le bonheur ou le malheur? Les discussions étaient bien sûr entremêlées de musique. Le rôle de Barbara lors des sessions de l'Académie des Unisoni est apparemment celui d'une maîtresse de cérémonie. C'est elle qui choisit les sujets de débat, qui juge les discours et qui décerne les prix aux meilleurs. Et bien sûr, elle chante dans le courant de la soirée. Elle n'est pas la seule à chanter et les relations des soirées mentionnent les voix les plus rares du siècle. Monteverdi lui-même aurait participé au moins à une réunion. À l'occasion de l'une des soirées de l'Académie des Unisoni, on a donné à lire à Barbara les deux arguments contraires du débat. La controverse portait ce soir-là sur l'amour, et quelle est l'arme la plus puissante pour le susciter, les larmes ou le chant ? La controverse sur la meilleure arme de l'amour, lue par Barbara Strozzi au cours d'une réunion des Unisoni, commence par la défense des larmes, qui sont naturelles, alors que le chant est artificiel. L'argument est que vous ne trouverez pas de trémolo qui ne soit pas fabriqué, pas un soupir qui ne soit une fiction. Le chant exprime les sentiments de manière fausse, une fois triste, une fois gai. Il simule les passions, il feint la souffrance. D'ailleurs, les musiciens eux-mêmes confessent que pour donner de la puissance à leurs chansons, ils usent de soupirs, de syncopes et de langueurs. Ils les ont volés à la douleur et aux larmes parce qu'ils trouvent la musique sans vie, sans l'énergie d'une véritable souffrance. L'argument qui vient en défense du chant par rapport aux larmes pour susciter l'amour est emprunté aux auteurs qui ont déclaré depuis Platon que l'art était supérieur à la nature, qu'à partir des leçons de la nature, la musique a été amenée à une telle perfection qu'il n'existe pas un pouvoir qu'elle ne puisse exploiter, aucune difficulté qu'elle ne puisse surmonter. Les larmes coulent de manière incontrôlée, sans ordre et sans valeur. Mais le chant, grâce à l'harmonie, grâce à l'observation, grâce à une voix supérieure, est conduit par l'âme. Le chant est le véritable maître des élans, des pauses, des soupirs, de la langueur et de toutes ces complexités musicales qui font naître l'amour. Dans la controverse sur les pouvoirs des larmes et du chant, le dernier mot est allé à Barbara Strozzi. « Je ne discuterai pas votre choix, mes gentils hommes, en faveur du chant, parce que je sais bien que vous ne m'auriez pas fait l'honneur de votre présence si je vous avais invité à venir me voir pleurer et non à m'entendre chanter. » Lagrimé Mille, extrait de l'opus 7 de Barbara Strozzi, avec Céline Shane, la Capella Mediterranea, sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Pierre Mine pour le mixage, Françoise Monteil, Aurélie Moreau, Philippe Demenoux pour le site et la préparation, et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.